VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Soudan, le conseil militaire au pouvoir depuis l'éviction le 11 avril du président Omar al-Béchir et le mouvement de contestation abordent ce mercredi soir la phase finale de leur dialogue avec l'espoir de s'accorder rapidement sur la composition d'un conseil souverain, organe suprême d'une période de transition fixée donc un accord commun à 3 ans. Jean-Roger Bion donne des détails sur l'accord déjà conclu par les deux parties à l'issue de discussions marathon.
Jusqu'ici, les manifestants voulaient 4 ans alors que l'armée voulait écourter la période à 2 ans. Selon le général Yasser Atta, membre du conseil militaire, les 6 premiers mois de la transition seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Il a également fait état d'un accord sur les prérogatives et la composition de la future assemblée législative. Elle comprendra, a-t-il précisé, 300 membres désignés et sera constituée à hauteur de 67% par des représentants des manifestants réunis au sein de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC. Le reste de l'assemblée sera occupé par les forces politiques non affiliées à l'ALC.
Au Soudan du Sud voisin, le président Salva Kiir a exhorté les législateurs et autres responsables soudanais à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. Il a souligné sa détermination de n'épargner aucun effort pour assurer la consolidation de la paix et de la stabilité après des années de guerre civile. Michel Joseph.
Le Soudan du Sud n'avancera pas tant que le gouvernement et l'opposition n'accorderont pas la priorité à l'application de l'accord de paix, a déclaré le chef de l'État sud-soudanais à la réouverture de l'Assemblée nationale de transition à Juba. Salva Kiir a appelé toutes les parties sud-soudanaises à œuvrer ensemble pour rétablir la paix et la libre circulation des personnes. Le pays est à la croisée des chemins, devant choisir entre embrasser et consolider la paix ou renouer avec la guerre, a-t-il déclaré, en affirmant complètement rejeter la guerre. Le président Kiir a assuré avoir pardonné à l'opposant Riek Machar, qu'il a appelé à rentrer à Juba pour appliquer l'accord de paix. Un nouveau gouvernement doit être formé en novembre suite à la décision des parties sud-soudanaises de prolonger la période de transition de 6 mois.
République démocratique du Congo, reprise de la coopération diplomatique et militaire entre la RDC et la Belgique. Le président Félix Tshisekedi a reçu hier à Kinshasa une délégation de haut rang de l'ancienne puissance coloniale. Le nouveau leader congolais a aussi confirmé le réchauffement des relations de son pays avec un autre partenaire important, le Rwanda. Et après avoir eu des consultations vendredi dernier avec le chef d'état-major des forces armées rwandaises en visite dans la capitale congolaise. Pour une analyse, Elie Sango a contacté Antoine Roger Bolamba, journaliste de la République démocratique du Congo, basé à Seattle, dans l'état de Washington, ici aux États-Unis.
La République démocratique du Congo est actuellement en train de vivre une situation, si elle ne s'ouvre pas auprès des États qui peuvent l'aider à sortir de la situation de crise générale qu'elle est en train de traverser, ça sera difficile pour ce pays de pouvoir un peu éclore et réaliser ce qu'il est censé être au cœur de l'Afrique comme un pays riche qui peut booster le développement de toute l'Afrique. Donc la reprise des relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo est saluée par nous et saluée par tout le monde qui veut que le Congo puisse ne pas vivre dans une situation d'isolement.
De personnalités de l'ancien régime, je vais faire allusion au régime du président Joseph Kabila, sont sous sanction de la Belgique et même de l'Union européenne. Maintenant que les relations se normalisent, quelles doivent devenir ces sanctions?
Je ne pense pas que les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique doivent se résumer dans les sanctions des individus qui se sont comportés d'une certaine manière. C'est que les autorités de l'ancien régime ont posé comme acte, il faudrait que la justice puisse faire son travail. Vous savez, la Belgique a pris ce genre de décisions pas pour rien. Et je ne crois pas qu'ils doivent dire que non, on a fait une blague, tout simplement, on supprime ça.
La fermeture de la maison Schengen, la réduction des fréquences de vol de SN Bruxelles était en quelque sorte des mesures de rétorsion côté Kinshasa.
Oui, je me souviens de ces mesures-là, mais je pense que la reprise de la relation bilatérale entre la Belgique et le Congo pourra exactement résoudre ces questions-là qui sont beaucoup plus fondamentales que la question tout simplement de lever les sanctions des dignitaires de l'ancien régime.
Les régimes ayant changé en RDC, ces relations qui reprennent doivent-elles continuer dans les mêmes élans ou doivent-elles changer de cap?
La politique de la main tendue, ce n'est pas toujours bien à continuer à considérer. Comme vous savez, beaucoup de gens disent et le soutiennent, c'est la main qui donne, qui commande le menu.
Dans la délégation, il y avait aussi les chefs d'état-major adjoints de la défense belge.
On a besoin de former des militaires, d'équiper des militaires, de mettre des militaires dans des conditions compétitives de combat pour essayer de neutraliser. Pourquoi ne pas élaguer la situation des milices, la situation de guerre, la situation de crise dans la partie notamment est de la République démocratique du Congo.
Et ceci s'est fait juste quelques jours après la normalisation des relations militaires avec le Rwanda.
La coopération militaire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pourra encore nous aider à se dire des vérités en face et à voir comment lever une équivoque qui pourrait amener la paix en République démocratique du Congo.
Antoine Roger Bolamba, journaliste congolais basé à Seattle dans l'état de Washington, ici aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Rwanda, Kigali a décidé de fermer la frontière avec l'Ouganda. Chauffeurs routiers et commerçants ont quitté la zone frontalière alors que les soldats des deux pays s'y sont déployés en raison des tensions bilatérales. Ce blocus résulte de la dégradation des relations entre les chefs d'État rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni, d'anciens alliés dans les années 80 et 90, quand ils s'étaient mutuellement aidés à accéder au pouvoir. La méfiance réciproque entre les deux présidents a éclaté au grand jour ces derniers mois. Chacun a proféré à l'encontre du rival les mêmes accusations d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays. La tension est encore montée d'un cran en mars, quand le Rwanda a publiquement accusé l'Ouganda d'enlever certains de ses citoyens et de soutenir des groupes rebelles déterminés à renverser le gouvernement au pouvoir à Kigali. À Afrique australe, en Zambie, la police a interpellé ce mercredi une ancienne ministre sur laquelle pèsent des soupçons de corruption qui ont motivé l'an dernier la décision du Royaume-Uni de suspendre son aide bilatérale à ce pays d'Afrique australe. À l'époque, le ministre du Développement communautaire et des services sociaux, Emrine Kamanchi, a été arrêté pour abus d'autorité, a indiqué une porte-parole de l'unité de la police chargée de la lutte contre le blanchiment, Teresa Katongo. Remise en liberté sous caution, Mme Kamanchi devrait être déférée devant un juge à une date qui n'a pas été précisée. Afrique du Nord maintenant, en Algérie, plusieurs salariés de la télévision nationale algérienne ont été récemment sanctionnés pour s'être prononcés contre les pressions subies de la part des autorités. C'est ce que révèle Reporters sans frontières qui a dénoncé des sanctions qu'elle a qualifiées d'injustifiées. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
Journaliste à Canal Algérie, la chaîne francophone de la télévision publique algérienne, Abdelmajid Benkassi a reçu un avertissement pour avoir pris part sans l'autorisation de sa hiérarchie à un débat sur une chaîne privée consacrée aux médias publics. La journaliste Melina Yassef a de son côté confirmé l'arrêt sur une autre chaîne de la télévision publique de son émission sur la voie du changement. Le 9 mai, M. Benkassi avait déjà dénoncé la mise à l'écart par la direction d'Abderrazak Sia de son poste de présentateur d'un des journaux télévisés de la 3, une chaîne arabophone publique. Dans un tweet, Nadia Madassi, qui a démissionné début mars de son poste de présentatrice du JT Soir de Canal Algérie, a attiré l'attention sur ses sanctions, ainsi que celles contre le journaliste Ali Adadou et la technicienne Imen Slimane, mutées pour leur soutien au mouvement de contestation. RSF dénonce ces mesures abusives et appelle à leur levée immédiate. Il s'agit de sanctions disproportionnées et injustifiées contre des journalistes qui n'ont fait qu'appeler à une presse libre et indépendante, indique Swayeb Kayati, directeur du bureau Afrique Nord de l'ONG, dans un communiqué.
Actualité américaine pour terminer. Le département d'État américain a ordonné ce mercredi à son personnel diplomatique non essentiel de quitter l'ambassade de Bagdad, le consulat d'Erbil dans le nord de l'Irak, et ce, dans un contexte de tension croissante avec l'Iran. Washington a fait monter la pression sur Téhéran ces derniers jours, accusant la République islamique iranienne de préparer des attaques contre les intérêts américains au Moyen-Orient. Washington a renforcé la présence militaire américaine dans le Golfe.